en large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Martine Jacques Dufaux, bonjour.
Bonjour.
Vous m'avez donné rendez-vous dans le petit village de Sarayé, commune Val-de-Bagne. On est dans un moulin scierie, même plus que ça. Racontez-nous un peu pourquoi vous nous avez invité ici.
Alors effectivement, le moulin de Sarayé a quelque chose d'unique, c'est qu'il est à la fois une scierie, qu'il était là aussi pour presser les pommes et pour moudre le blé, le seigle en farine.
Donc l'eau active à la fois les moulins, les pommes donc, et les graines, mais aussi la scie.
Le même système de roue à godet pour les trois qui fonctionne. Et c'est vrai que c'était complètement unique. Et pour moi, c'est tellement ingénieux. Et je trouve toujours fantastique de me dire qu'en son temps, nos anciens, qui étaient tellement ingénieux, ils ont imaginé ce système à la fois pour couper le bois, parce qu'il fallait bien habiter. Et aussi se nourrir, donc il fallait moudre le grain en farine et puis presser les pommes, puisqu'on a de la chance d'avoir à Sarayé quelques vergers de pommes.
Bon, ce moulin-ci fait partie du complexe patrimonial du musée de Bagne, dont on parlera prochainement dans une émission avec sa directrice. Vous parlez du génie de nos ancêtres, il y a quelque chose dans la montagne. Alors on peut aller au plus visible, au plus simple. Là, c'est pas les paysans pour le coup, mais c'est les trains, ces trains qui sont monter vers les sommets au 19e siècle, une espèce d'ambition incroyable. Et puis dans la vie quotidienne aussi, comme dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures humaines, cette façon d'utiliser le territoire au mieux. Quoi.
D'utiliser le territoire, de s'adapter au territoire, à ses contraintes, de toujours aussi être innovant, savoir être créatif pour faire au mieux avec ce que le terroir et le territoire offrent. Eh bien, que ce soit pour la construction, que ce soit pour l'alimentation, c'est vrai, c'était une capacité d'adaptation qui était phénoménale.
Alors, tout à l'enthousiasme du lieu, j'ai oublié de dire qui vous êtes, Martine Jacques Dufaux.
Pas de souci.
Vous êtes donc la secrétaire et coordinatrice de ce PDR Entremont, projet de développement régional du Grand Entremont, dont on va parler. L'étincelle de cette émission, c'est qu'un des projets concrets de ce PDR arrive là tout prochainement. C'est un centre d'apiculture, on va en parler également. Qu'est-ce que c'est
Très
un
volontiers.
PDR
Alors un PDR, c'est donc un projet de développement régional. C'est un outil de la politique agricole en Suisse qui permet à des régions qui ont envie de dynamiser leur agriculture, d'améliorer leur infrastructure, de bénéficier de fonds, qui soient de fonds de la Confédération, du canton et en Valais aussi des communes qui participent à cofinancer ces PDR et les différents projets qui composent un PDR.
Alors il était particulièrement intéressant pour moi de venir vous voir parce qu'un PDR, on en a un dans notre région du Bas-Valais, du Chablais, c'est la vallée d'Illier, avec des réalisations un peu cousines de celles qui se font et qui se sont faites dans cette vallée, dans ce PDR Grand Entremont, je pense à la Cavagne notamment, au fait que les agriculteurs se sont réunis pour traiter. Il y a cette notion de conservation d'un patrimoine et puis aussi que l'union fait la force. C'est assez nouveau ça, c'est du 21e siècle.
Alors c'est vrai que ces PDR qui on travaille avec des agriculteurs, avec des femmes et des hommes paysans et paysannes. Et puis souvent, la mentalité d'agriculteur est quand même assez individualiste. Mais là, c'est vrai que dans ces PDR, on leur demande d'être ensemble, de penser collectivement à un projet, de se fédérer autour d'une idée commune. Et c'est vraiment là aussi la condition d'un PDR. C'est pas forcément le plus facile quand on doit se mettre ensemble, s'identifier à quelque chose et à un projet plus global. Mais c'est effectivement comme ça que les PDR fonctionnent. Et puis par rapport au Val d'Illier, oui, effectivement, on est cousins, on est les deux dans des régions avec une forte économie pastorale, avec des bovins, du lait, des fromages. Et on a dans ces deux régions ce point commun, bien assurément.
On a un lieu symbole comme l'est la Cavagne dans la vallée d'Illier.
Alors effectivement, quand le PDR a été mis en place, ça a été pendant 7 ans que les paysans, les paysannes de la région se sont retrouvés, ont fait des ateliers pour essayer de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on veut faire dans notre région? La question s'était posée de savoir si on allait faire un endroit comme à la Cavagne, un endroit unique où on aurait pu affiner les fromages de toutes les fromageries de la région, un endroit aussi pour la vente. Et puis finalement, ça ne s'est pas directement fait comme ça. Pourquoi ? Parce que dans ce PDR, on a eu 2 nouvelles laiteries, à Étier et à Orcières. Celle d'Orcières qui est déjà terminée et celle d'Étier qui est en train d'être construite. ces deux laiteries, hein, à Étier, pour remplacer une autre laiterie qui existe déjà, donc le lieu existe déjà avec un magasin, et ces deux magasins, laiteries, vont devenir des hauts lieux pour mettre en valeur les produits locaux, les produits du terroir, les produits de la région. Et puis aussi parce qu'on a réalisé et on sait que quand on fait du fromage, le lait a son importance, la fabrication avec le savoir-faire du fromager a son importance, mais l'affinage a aussi son importance. Et finalement, de centraliser l'affinage, c'est aussi perte de la typicité, perte de l'identité dans les produits.
Bon, on a aussi une vallée qui est plus grande, hein, tout simplement, que la vallée d'Illier.
On a une vallée plus grande,
plus étendue.
Et d'ailleurs, on a encore, aussi dans le cadre du PDR, pu rajouter un magasin à la laiterie de Lille, sur l'axe du Grand Saint-Bernard. Et puis, on a aussi la laiterie de Verbier. Donc, on voit vraiment des laiteries qui sont dispersées. Et puis aussi, dans notre région, on a eu la chance d'avoir des petites épiceries qui ont aussi décidé de jouer le jeu, de mettre en valeur les produits locaux. Si bien qu'avec ces petites épiceries, les laiteries qui sont là avec les produits de terroir, avoir en plus un lieu centralisé à s'embrancher faisait moins de sens.
Bon, on a une histoire, là on reviendra au PDR hein, tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, on a une histoire d'un certain localisme hein, dans nos régions. Il faut se recentrer sur les produits, sur le terroir, sur la proximité. Alors il y a eu un petit pic avec le Covid bien sûr, mais c'est bien antérieur. Hein, cette notion de protection et de recentrage, il date de quand?
Alors effectivement, hein, cette importance qu'on donne à l'origine, à la tradition aussi, ce besoin aussi hein, d'avoir des racines jusque dans l'alimentaire, il date effectivement bien avant du Covid. Alors en Suisse, on a peut-être eu cette sensibilité un peu plus tardivement que certains de nos pays voisins. On regarde du côté de la France, le Roquefort était protégé par une appellation d'origine déjà vers 1916 ou 1919. Et puis en Suisse, il a fallu attendre une ordonnance sur les appellations d'origine contrôlées et les indications géographiques protégées en 1996 pour qu'on décide vraiment de protéger les produits qui sont vraiment ancrés dans un lieu qui donne la typicité et l'identité à ce produit. Par contre, c'est vrai qu'on avait déjà des AOC pour le vin. Et le vin, c'est la même logique. Hein. Mmh. C'est vraiment accorder de l'importance au terroir qui va donner une certaine identité à un vin, à un produit, à un fromage.
Bon, on a parlé dans cette émission de l'épopée de l'Étiva hein, avec Jacques Anchaud. Vous avez bien connu, vous avez fait partie justement des premières équipes de promotion de ces AOC suisses. Est-ce que ça ne correspond pas aussi à un moment d'abandon de la politique à l'égard de l'agriculture qui a été soutenu? On leur disait, vous faites ça, ouais. C'est ce qui correspond aux besoins du pays. Et puis tout à coup, on a ouvert les marchés, les produits venaient d'ailleurs.
Exact.
C'est le libre-échange, la mondialisation heureuse.
Exact.
Ce recentrage, il est aussi provoqué par une nécessité.
Complètement. Alors effectivement, hein, on a eu l'État qui s'est quand même désengagé à un moment donné. Auparavant, voilà, les agriculteurs produisaient, on leur achetait à un prix fixe la matière première. Ça ne s'est plus passé comme ça. Comme vous dites, les frontières se sont ouvertes. Les rayons sont devenus de plus en plus standardisés avec des produits qui venaient de partout. Et puis, on a voulu quand même donner des chances à notre agriculture suisse. Et on s'est dit, ben voilà, on ne peut peut-être pas être compétitif avec les prix, mais on va être compétitif avec la qualité. Et quand on entend la qualité, c'est non seulement les conditions de production, on a là une ordonnance pour la production biologique, mais aussi la qualité d'un produit qui est lié à une origine particulière.
On a la première AOC, je l'évoquais, celle de l'Étiva, c'est l'an 2000 je crois, hein, enfin toute fin du siècle, le travail s'est fait à la fin du siècle passé. On est aussi dans un élan de préservation du patrimoine, je regardais, les dates se concordent, hein, sauver Lavaux, oui. Les bateaux Belle Époque du Léman, oui. Il y a aussi eu des périodes comme ça où ces patrimoines-là étaient en danger. Ce retour au patrimoine de l'agriculture, il fait aussi partie d'une sorte d'inconscient collectif de recentrage, encore une fois, face à la mondialisation.
Tout à fait, hein. Et puis c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on a eu justement ces premières appellations d'origine contrôlée, on a eu la semaine du goût qui a été mise en place en Suisse, on a eu le concours des produits de terroir à Courtemelon. Donc tout d'un coup cette sensibilité à se dire mais on a une richesse gigantesque, on a du patrimoine alimentaire et on doit le mettre en avant, on doit donner envie aux consommateurs de s'y intéresser, d'être gourmand pour du local.
Donc la semaine du goût, vous la connaissez bien, hein, vous étiez jusqu'à tout récemment la vice-présidente de l'association Suisse du goût,
la Fondation pour le goût, voilà.
Fondation pour le goût qui est donc la fondation hein, qui dirige et qui organise la semaine suisse du goût dont on parle souvent dans cette émission. Ça fonctionne, parce qu'on a maintenant quasiment de la décennie à se mettre sous la dent, hein, une vingtaine d'années pour à la fois ce retour au terroir et à la fois la semaine du goût. On peut dire que la population joue le jeu, il y a eu un effet Covid, vous le sentez, comment ça se passe?
Alors, bien sûr qu'on aimerait toujours que la population joue encore plus le jeu, mais si je regarde quand on a créé l'association pour la promotion des AOP et IGP en 1999, où là, effectivement, hein, quand on allait dire, mais vous savez, la qualité, l'origine, d'où vient le produit, ça peut être important pour le consommateur. Même la grande distribution nous regardait un petit peu de se dire, mais de quoi vous parlez? Et puis aujourd'hui, on voit quand même, oui, les gens ont un besoin de se tourner vers une alimentation plus locale, une alimentation terroir. Mais c'est vrai qu'aussi, tout le monde n'est pas comme ça. On a encore des gens pour qui l'identité des aliments n'a pas d'importance ou qui vont vraiment devoir regarder le prix d'un aliment plutôt que son origine. Mais c'est vrai que quand même, nous, on constate maintenant dans notre région du Grand Entremont, il y a vraiment un intérêt pour ces produits locaux, pour ces produits qui ont une histoire à raconter dans un territoire donné.
Et dans le monde des agriculteurs, j'imagine quand on est agriculteur en montagne, le temps de la réflexion est passé, on n'a plus le choix. On doit aller vers de la spécialisation, vers de la mise en valeur du produit.
Alors effectivement, et puis c'est pour ça que pour les plus anciennes générations d'agriculteurs, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Auparavant, ils étaient vraiment producteurs de matières premières et maintenant on leur demande de raconter leurs produits, d'être là aussi pour le vendre, de s'intéresser au devenir de leurs produits. Mais c'est une nécessité maintenant. Si on veut pouvoir continuer à faire vivre nos paysans de leur production, avec bien sûr les paiements directs, il doit y avoir une mise en valeur économique qui est optimale de leurs produits.
Ça gratte encore ou c'est entré maintenant dans les esprits ça?
Pour les agriculteurs, ils le comprennent maintenant, vraiment. Je crois que c'est vraiment une prise de conscience.
Ça dans cette émission, quand on parle du monde agricole, ce changement du métier. Hein, en quelques décennies, on est passé du métier de la terre, qu'on a peut-être oublié un peu d'ailleurs, avec la chimie, avec les intrants. Et puis maintenant, il faut être hôtelier, il faut gérer une bureaucratie incroyable avec toutes les normes, etc. Il faut être énergéticien parfois, on leur demande de faire de l'énergie. C'est fou, hein, le changement comme ça.
Multifacette. On parle du rôle multifonctionnel de l'agriculture et le métier est multifacette. C'est vrai que d'être agriculteur, ça demande une panoplie de compétences, mais très diverses. Et puis, alors maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. C'est vrai qu'on voit peut-être les jeunes générations ont un peu plus de facilité à se tourner aussi vers le consommateur, être prêts d'aller dans des événements pour parler de leurs produits. Ils le comprennent. Ils n'ont pas toujours forcément beaucoup de temps à accorder à cet aspect de leur métier. Ils sont quand même avant tout des producteurs de matières premières avec les aléas du temps. Et puis c'est vrai que si on a envie qu'ils viennent à un événement pendant l'été parce qu'il y a des touristes et qu'on aimerait qu'ils viennent présenter leurs produits, leur production, leur ferme, et que c'est le jour où il faut aller faucher, eh bien les agriculteurs auront envie d'aller faucher, assurément.
On parle beaucoup de la disparition des exploitations agricoles, pas seulement en Suisse, pas seulement en Valais, dans toute l'Europe, probablement dans le monde entier. Hein, la décentralisation, on a des exploitations de plus en plus grandes et des petits producteurs qui disparaissent.
C'est juste.
Avoir une identité comme ça, ça doit favoriser aussi la remise des exploitations, le fait qu'on peut faire petit et s'en sortir malgré tout grâce à une image de marque.
Alors effectivement, ça c'est un vecteur important pour donner envie aux jeunes générations de continuer à s'intéresser au métier d'agriculteur.
D'avoir une fierté de ce qu'on fait déjà.
Vraiment la fierté. Et puis je le vois maintenant, je trouve que les paysans, on sent que quand on parle d'eux, ils sont contents. Ils ne vont jamais tellement le montrer, mais je pense qu'ils sont vraiment contents quand on les met en avant aussi, comme agriculteurs, comme aussi fournisseurs d'alimentation. Mais pour ça, il faut vraiment que les outils aussi qu'ils aient à disposition soient là. Et c'est pour ça que le PDR du Grand Entremont a eu ça vraiment d'important pour notre agriculture et pour les jeunes générations. C'est de permettre d'avoir des outils de production maintenant qui sont modernes, efficaces pour les 20 prochaines années. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour assurer la relève de notre agriculture.
Voilà, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, à tout de suite.